Studio Tamani, voici nos informations en français.
À la une de ce journal, ouverture ce mardi de la 43e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation à Bamako. Pour des observateurs, cette session doit être une occasion pour les parties signataires de s'entendre sur les actions à prioriser afin d'accélérer la mise en œuvre de l'accord. Le forum régional sur la gestion des conflits locaux dans le Liptako-Gourma se poursuit à Niamey au Niger. Selon les organisateurs, cette conférence doit faire un diagnostic pour mieux appréhender les facteurs réels d'instabilité dans la zone du Liptako-Gourma. Le premier ministre Choguel Kokkala Mayiga à la rencontre de la presse malienne, c'était hier à la maison de la presse. Plusieurs questions ont été abordées, dont la refondation de la presse malienne, les disparitions et les arrestations arbitraires des journalistes. Le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo, Nouhoum Diré, est à la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La 43e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation s'ouvre aujourd'hui à Bamako. C'est la seconde rencontre du comité après celle tenue à Kai en mars 2021 depuis la mise en place de la transition. Elle intervient au moment où les autorités annoncent l'arrivée du 3e bataillon de l'armée reconstituée à Kidal. Moussa Mali Sissoko pour plus de détails.
Selon les responsables du comité de suivi de l'accord, cette 43e session examinera les engagements pris lors de la 5e réunion de haut niveau à Kidal et ceux de la 42e session ordinaire de CAI. Ces rencontres se sont déroulées respectivement au mois de février et mars 2021. Au cours de cette réunion, il sera également question de faire le point des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord. Pour ce faire, une communication sera présentée par le gouvernement. Il faut rappeler que cette rencontre entre les parties signataires de l'accord a la participation du tout nouveau chef de la MINUSMA, Elgassim Wane. Elle survient au moment où les autorités de la transition décident de la mise en œuvre intelligente de l'accord durant le reste de la transition. Cependant, les groupes armés signataires souhaitent que cette session puisse relancer la mise en œuvre de l'accord suspendu depuis des mois. Cette 43e session se tient au moment où la 3e compagnie de bataillon de l'armée reconstituée, qui a quitté Gao la semaine dernière, a fait son entrée à Kidal selon les autorités.
Il faut une convergence de vues sur l'objectif stratégique de mise en œuvre de l'accord d'ici la fin de la transition, estime Ibrahim Maïga, analyste des questions de paix et sécurité. Selon lui, il est important d'avoir unité d'action entre les parties signataires de l'accord. Celles-ci doivent aussi s'entendre et prioriser les actions pour accélérer la mise en œuvre des dispositions du document, ajoute-t-il. Ibrahim Maïga, analyste des questions de paix et sécurité, est joint au téléphone par Moussa Mali Sissoko.
D'un côté, le président de la transition parle d'une mise en œuvre intégrale de l'accord. Du côté du Premier ministre, donc qui est le chef du gouvernement, un objectif qui n'est pas totalement aligné sur celui présenté par le président de la transition, qui est faire une relecture ou une mise en œuvre intelligente. Il faut qu'il y ait un objectif commun au niveau de l'exécutif et qu'ensuite, avec cet objectif commun, que ces parties tout ensemble voient ce qu'il est possible de faire d'ici la fin de la transition. Il est possible de poser des actions et des actions qui vont dans le sens aussi du renforcement de la confiance entre les parties, ce qui est une nécessité pour mettre en œuvre les dispositions difficiles. Est-ce qu'on va vers une mise en œuvre de l'accord ou est-ce qu'on va vers une relecture avant d'accélérer la cadence dans la mise en œuvre, soit largement partagée et par le gouvernement malien et par les parties signataires.
8h et bientôt 4 minutes, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le premier ministre du gouvernement de transition, Choguel Kokkala Mayiga, a rencontré hier la presse malienne à Bamako. Au cours de cette rencontre, le premier ministre a exposé sa vision de la gestion du gouvernement de transition. Choguel Kokkala Mayiga a indiqué aux journalistes qu'il entend mettre en place tous les moyens légaux pour une réussite de la transition. Avec la presse, il a aussi été question des problèmes qui minent le secteur, notamment les disparitions des journalistes et leurs arrestations arbitraires. Plus de précisions avec Awa Berthe.
Pour le président de la maison de la presse Banyougou Danté, il faut une refondation de la presse malienne pour une presse digne de ce nom. Selon lui, l'appui du gouvernement est plus que nécessaire pour atteindre cet objectif. Banyougou Danté, président de la maison de la presse.
Tout a été dit par rapport à nos préoccupations. Tout a été écrit, tout a été envoyé. Mais nous avons fait montre de pondération, montre de responsabilité et encore de sagesse pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions à nos problèmes. Les problèmes de la presse au Mali se résument essentiellement à l'inadaptation des textes. Il ne peut pas y avoir de refondation sans une refondation de la presse malienne. Les baromètres de la société, c'est la presse.
Le premier ministre Choguel Kokala Maïga rassure que tout sera mis en œuvre pour satisfaire une partie des revendications de la presse. Avant d'interpeller la presse malienne à un professionnalisme irréprochable, Choguel Kokala Maïga, premier ministre.
Tant que la loi est en vigueur, je pense qu'il faut que les camarades se conforment à la loi. Moi, je ne suis pas partisan du fait qu'on arrête des journalistes. Mais vous savez, sur les réseaux sociaux, ce n'est plus du journalisme que les gens font. Ils insultent, ils font ce qu'ils veulent, ils règlent des comptes souvent. Dans les réseaux sociaux, on porte atteinte à la vie privée des gens, à l'honneur des gens, ça ce n'est pas du journalisme. Moi je pense qu'il y a certains qui par leur comportement portent tort à l'image des vrais journalistes.
Rappelons que cette rencontre intervient alors qu'au moins 3 journalistes maliens sont portés disparus.
Direction Niamey au Niger où s'est ouvert hier le forum régional sur la gestion des conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma, placé sous le parrainage du Premier ministre du Niger Oumoudou Mahamadou. Cette rencontre est une initiative des médiateurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Objectif, trouver des solutions idoines aux conflits armés dans la zone des 3 frontières. Mais détail avec notre envoyé spécial au Niger, Intalak Bilal.
Selon les médiateurs du Niger, la dégradation de la sécurité dans la zone de Liptako Gourma est une problématique majeure qui menace l'existence des millions de personnes réparties entre les pays frontaliers du Sahel. Pour Maître Ali Sirfi Meiga, l'épicentre de cette terre se situant entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a été touché par des attaques terroristes ayant fait des centaines de morts. Maître Ali Sirfi Meiga, médiateur de la République du Niger.
Cette crise sécuritaire prend plusieurs formes, comme Inates, Chinagoder, Igosagou et tout récemment Salam. Le massacre de Salam nous indique le franchissement vers une nouvelle étape qui doit nous interpeller. En effet, à Salam, les assaillants ont non seulement tué, égorgé, mutilé, mais surtout ils ont prélevé sur des victimes des organes humains qu'ils ont emportés.
Toutefois, le médiateur explique que l'évolution de cette cruauté interpelle toutes les communautés et tous les états de la sous-région à unir leurs forces pour protéger leur population. Selon lui, un Liptako Gourma sans violence est possible. Maître Ali Sefi Meiga.
Nous allons donc analyser en profondeur le sens de cette insécurité. C'est à cette condition que nous pouvons favoriser la réouverture de centaines d'écoles aujourd'hui fermées et le retour dans leur terroir des milliers de personnes déplacées.
Cependant, pour les chefferies traditionnelles présentes à la rencontre, il faut soutenir l'action militaire en cours dans la zone de Liptako Gourma par des engagements forts. Elle estime que cela permettrait de lutter contre la pauvreté et la famine dans ces zones de conflit. De Niamey, Intala Akbilal pour Studio Tamani.
Pour le Premier ministre du Niger, cette rencontre se veut un espace d'échange pour identifier les solutions, mais aussi un lieu pour prendre conscience qu'il faut urgentement agir pour sauver les communautés du Sahel. Selon lui, cette conférence doit produire un diagnostic pour mieux appréhender les facteurs réels d'instabilité de la zone du Liptako Gourma. Écoutons Oumoudou Mahamadou, Premier ministre du Niger. Il est au micro de notre envoyé spécial Intala Akbilal.
Le président séminaire se tient à un moment où les pays membres du G5 Sahel et les pays riverains du lac Tchad font face à une insécurité grandissante du fait de l'activisme des groupes armés terroristes, des trafiquants et des bandits armés. Si par le passé, les groupes armés terroristes s'attaquaient aux cibles militaires, ce n'est plus le cas malheureusement à l'heure actuelle, car les tueries en masse des populations civiles désarmées, les assassinats ciblés des leaders communautaires et religieux, les enlèvements des personnes contre rançon, les rackets, les vols de bétail, l'enrôlement forcé des enfants sont devenus monnaie courante. Ces tueries et ces actes barbares ont pour conséquence de pousser les populations à l'autodéfense, voire à la vendetta sur d'autres populations, tout aussi civiles et innocentes, du simple fait de l'appartenance de la majorité des éléments de groupes armés terroristes et bandits à ces communautés.
Oumoudou Mahamadou, Premier ministre du Niger, il était interrogé par Intala Akbilal. Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. Les autorités sanitaires ont enregistré 2 nouveaux cas de COVID-19. 0 patient guéri et 0 décès ce lundi 28 juin. Ainsi, depuis le début de la pandémie, 14 419 personnes ont contracté la maladie, 525 sont décédées et 10 058 sont guéris. C'est ce qui nous conduit à la rubrique Actu Covid présentée ce matin par Aïssa Tadjara.
Ils sont encore nombreux ceux qui ne croient pas à l'existence de la COVID-19. À Bamako, si certains pensent que c'est une arme biologique, d'autres pensent que c'est une maladie montée de toutes pièces. Les médecins insistent toutefois sur l'existence de la pandémie et appellent la population au respect des mesures barrières. Juliette Koulibaly nous en dit plus.
Le nombre de contaminations en hausse ou en baisse est une simple stratégie des autorités pour gagner de l'argent, nous confient certains Bamakois.
Personnellement, je fais partie de ceux-là qui d'ailleurs n'ont jamais cru à cette maladie. Je pense que c'est une stratégie internationale pour faire vendre certains produits pharmaceutiques.
La maladie n'est pas encore finie. Il y a les protections qu'on doit prendre pour qu'on diminue un peu. La maladie COVID-19, ça existe.
Moi, personnellement, moi, je dirais que c'est faux, archi faux, quoi. Je crois.
Docteur Salah Garba de Tombouctou affirme que le coronavirus est un virus qui existe depuis longtemps. Selon lui, comme toute autre maladie, la COVID-19 peut évoluer dans le temps et dans l'espace. Cependant, il insiste sur la nécessité de respecter les mesures barrières.
C'est un virus qui est long. C'est maintenant que c'est en train de faire des dégâts. La première des choses, c'est aux gens de laver leurs mains pour éviter à ce que le virus quitte une main à une autre. Qu'on évite les accolades ou bien de se donner la main. Et les lavages de mains. Aussi, la désinfection.
Les autorités sanitaires dénoncent la faible affluence par rapport au vaccin anti-corona dans certaines régions. Pour le moment, selon elle, la seule couche qui s'y intéresse plus est celle des voyageurs.
Maintenant, place à la question d'auditeur. Elle est répondue par professeur Yakuba Toloba, responsable du 2e centre de prise en charge de COVID-19 à l'hôpital du Point G.
Allô, professeur, est-ce que le billet de banque peut être un facteur de transmission du virus?
Si un papier peut transmettre, ça veut dire que les billets de banque peuvent transmettre. Mais une chose est sûre, les billets de banque qu'on enlève dans les guichets qui sont des billets sécurisés. Peut-être c'est des billets qui sont dans nos commerces, au marché et tout ça. Quelqu'un touche, il prend les billets. Ce n'est même pas le coronavirus. Même tu peux attraper la grippe à travers ça.
Ainsi prend fin ce numéro de la rubrique Acti-Covid. Merci de l'avoir suivi. Le port de masque peut vous protéger. Protéger du coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays, la mutuelle interprofessionnelle sociale de Koutiala Misco a tenu sa première assemblée générale dimanche dernier dans la localité. La rencontre a permis d'informer et de sensibiliser les participants sur l'importance de la solidarité en matière de lutte contre les maladies. À l'issue des travaux, un conseil d'administration de 15 membres dont 3 femmes a été mis en place. Il est présidé par Ouattara Aminata Diabaté. Un atelier de restitution, de vulgarisation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali s'est tenu le week-end dernier à Gao. Selon les organisateurs, cette rencontre visait à renforcer les capacités de la société civile pour une meilleure vulgarisation du document. La session a été financée par la MINUSMA et mise en œuvre par la coalition citoyenne de la société civile. Une quarantaine d'administrateurs des écoles de Médersa de Kaï ont bouclé le week-end dernier une session sur l'élaboration du procès-verbal des examens. Il s'agissait, selon les organisateurs, de renforcer les capacités des participants au remplissage du procès-verbal des examens pour éviter les erreurs. Elle a été organisée par le Bureau régional de l'Union des enseignants de langue arabe et de la culture islamique au Mali. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo. À la mise en onde de Nuhum Djiri, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Aïssa Tadjara Sirala pour le journal en Bamanankan. Mais n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321 sur la plateforme Viamo. La menace terroriste est une réalité dans la région de Sikasso. L'information est confirmée par le gouverneur de la région. Selon le chef de l'exécutif régional, des mesures sont en cours pour contenir le problème. Cependant, le gouverneur demande la collaboration de la population avec les forces de l'ordre pour mener à bien les dispositions prises. Siné Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso, répond aux questions de Adama Modouaïdara.
Comme vous le savez, la région de Sikasso est située au sud du Mali. Elle fait frontière avec trois pays, à savoir les républiques du Burkina Faso à l'est, la Guinée-Conakry à l'ouest et la Côte d'Ivoire au sud. Cette position géographique a des avantages sur le plan économique, social et culturel, mais aussi des menaces sur le plan sécuritaire pour notre pays, compte tenu de la porosité de nos frontières.
Alors, monsieur le gouverneur, quels sont les défis auxquels la région de Sikasso est confrontée aujourd'hui?
La région de Sikasso est confrontée actuellement à un défi sécuritaire, déficit en eau potable et en électricité. De même, la multiplication des sites d'orpaillage traditionnels dans la région constitue une menace pour la sécurité des populations. Nous avons le grand banditisme qui sévit dans certaines parties du pays. Le plus spectaculaire est la caisse Kafo-Djikiné de Kléla, au cours duquel nous déplorons une perte en vie humaine. Il y a aussi le trafic de stupéfiants et la vente illicite des produits contrefaits. Il y a aussi la persistance des litiges fonciers entre villages frontaliers maliens, ivoiriens et guinéens. Il y a aussi l'insuffisance des moyens humains que nous sentons au niveau de l'armée et matériel pour relever ces défis sécuritaires.
Et comment est-ce que vous allez faire pour relever ces défis?
Pour relever ces défis, les forces de sécurité et de défense ont pris toutes les dispositions pour que les auteurs des forfaits puissent être arrêtés et ensemble des dispositions sont en cours pour mettre hors d'état de nuit les bandits et dissuader tous les éventuels malfrats d'opérer à Sikasso.
Mais est-ce que sur le plan sécuritaire, la menace terroriste pèse sur la région de Sikasso comme dans les autres localités?
C'est une réalité dans la région de Sikasso, comme l'attestent les différentes fermetures d'écoles qui ont été imposées dans les arrondissements de Boura, sec de Yoroso. Cependant, cette menace ne pouvant trouver une solution, des dispositions sont en cours pour éviter une concentration de ces individus afin d'éviter la création de zones d'opération à leur niveau.
Est-ce que les tracasseries routières au niveau des frontières, vous avez pris des dispositions concernant cela?
Comme je l'ai dit tantôt, toutes les dispositions sont prises par les autorités des forces sécuritaires et ça fait partie aussi des dispositions en cours, les tracasseries au niveau de nos frontières.
Quel est votre appel à la population pour avoir une bonne suite des actes qui seront posés?
C'est de rester vigilant et de communiquer aux autorités civiles et aux militaires toute présence suspecte afin que des solutions soient prises à temps.